France Inter.
Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Israël, Gaza à la une ce matin, sur place d'abord, avec cette proposition de trêve, lueur d'espoir et la réponse attendue du Hamas. Et en France, avec de faibles mobilisations d'étudiants pro-palestiniens à la Sorbonne après Sciences Po, beaucoup d'écho, mais peu de soutien, notamment parmi les enseignants. À chaque âge, son écran, pas du tout avant 3 ans, des experts rendent leur avis au président de la République aujourd'hui. Ils recommandent l'interdiction des smartphone au moins de 13 ans. On verra ce qu'en pense votre invité Nicolas.
À 8h20 avec Yaël Gauz, nous recevons dans le grand entretien de la matinale la ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, Nicole Belloubet. Vos questions 01 45 24 7000 et l'application de France Inter.
D'ici là, retour sur le drame du week-end à Châteauroux. Un ado poignardé, son agresseur mis en examen hier soir. Ils avaient 15 ans tous les deux, ils venaient de se disputer. Plus 0,2% dans l'absolu, ça n'est pas grand-chose, mais quand on parle de croissance, ça veut dire beaucoup, suffisamment en tout cas pour que ce soit une bonne nouvelle. En ce début d'année, le chiffre de l'INSEE vient de tomber. Et puis au lit pour la science, 12 volontaires l'ont testé pendant 2 mois, allongés sans bouger pour simuler l'apesanteur et voir ses effets sur le corps humain. On va les entendre.
France Inter.
Y aura-t-il une trêve à Gaza? Tous les espoirs ont été déçus depuis le mois de novembre. Mais cette fois, y aurait-il un alignement des intérêts, ceux d'Israël, ceux du Hamas? Bonjour Michel Paul.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Vous êtes l'un de nos correspondants à Jérusalem. Michel, une proposition négociée entre l'Égypte et Israël a été soumise au Hamas hier au Caire. Le mouvement palestinien est censé répondre rapidement. De quoi s'agit-il? Et pourquoi cette fois ça pourrait peut-être marcher?
C'est une proposition remarquablement généreuse de la part d'Israël. C'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui l'affirme. Alors, cette fois, il est question d'un cessez-le-feu total dans le cadre d'un plan en 2 étapes dont les détails transpirent et sont encore parfois contradictoires. Dans un premier temps, une trêve humanitaire temporaire, on parle d'environ 6 semaines, avec la libération de 33 otages. Jusqu'à présent, les négociateurs israéliens exigeaient la mise en liberté de 40 otages, et cela en échange de plus d'un millier de Palestiniens détenus en Israël. Une seconde étape porterait sur la libération de tous les autres otages et aussi l'arrêt des combats. Et c'est précisément, Florence, sur ce point que la négociation achoppe. Le Hamas exige la fin de la guerre, une option qu'Israël rejette totalement. Les familles des otages font pression sur le gouvernement pour ne pas rater cette occasion de sauver leurs proches. De son côté, le Premier ministre israélien Netanyahou est pris entre deux feux. L'extrême droite qui affirme que cet accord signerait la fin de l'actuel gouvernement et le centriste Benny Gantz qui estime, lui, que sans libération des otages, la coalition perd toute légitimité.
Michel Paul en direct de Jérusalem, où le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est attendu aujourd'hui. Il espère une réponse favorable du Hamas. Le conflit aux États-Unis occupe le devant de la scène politique avec la mobilisation massive d'étudiants pro-palestiniens dans les universités. À Columbia, ceux qui occupent le campus ont commencé à être sanctionnés hier soir avec des suspensions administratives. Alors qu'en France, le mouvement ne prend pas pour l'instant. Quelques dizaines d'étudiants à Sciences Po la semaine dernière, une 50aine à la Sorbonne hier, délogée par la police, alors qu'ils installaient un campement dans la cour de l'établissement. Dans les deux cas, Alain Gastal, beaucoup de bruit, mais des étudiants peu soutenus, notamment par leurs professeurs.
La mobilisation n'a pas fait tache d'huile à la Sorbonne et la 50aine d'étudiants pro-palestiniens a rapidement été évacuée par la police. Christophe Rameau enseigne l'économie dans cette université. Il est membre des économistes atterrés, classés à gauche et opposés au gouvernement israélien. Il approuve pourtant l'évacuation.
Je considère particulièrement délétère de laisser entendre que tous les sionistes sont des fascistes. C'est le mot d'ordre qui est repris par ceux qui ont planté leur quechua à cours de la Sorbonne. On a affaire à des militants très minoritaires, très radicaux. Ils ont le droit d'avoir leur position, ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils n'ont pas le droit, de mon point de vue, c'est de bloquer un service public.
À Sciences Po, la région Île-de-France a décidé de suspendre son financement, accusant LFI et les islamo-gauchistes de dicter leur loi, ce que réfute Christian Le Ken. Il y enseigne la politique internationale depuis 36 ans.
J'entends Sciences Po, repère du wokisme, repère de l'extrême gauche, proche, c'est loin de correspondre à la vérité de l'ensemble de cette maison. On est dans un moment qui a été particulièrement violent, mais on est aussi dans un moment où la raison est en train de revenir.
Un accord prévoit l'organisation d'un débat interne à Sciences Po, probablement jeudi.
Et toujours sur le même sujet, Mathilde Panot et Rima Hassan sont convoqués par la police ce mardi pour être entendus dans deux enquêtes pour apologie du terrorisme. L'une d'entre elles concerne le communiqué du groupe Insoumis à l'Assemblée le 7 octobre, qui qualifiait l'attaque du Hamas d'offensive armée des forces palestiniennes. La France Insoumise crie à la censure et appelle à un rassemblement ce matin à proximité du tribunal de Paris.
Il est 8h06, eux se rassembleront demain à Don Rémy la Pucelle.
Qui, comme son nom l'indique, vit naître et grandir Jeanne d'Arc. Marion Maréchal y organise un banquet du 1er mai demain. La tête de liste Reconquête aux élections européennes reprend ainsi une tradition frontiste, tombée en désuétude dans le camp lepéniste époque marine. Loin de l'hommage annuel de son père sous la statue parisienne de Jeanne d'Arc, la nièce reprend donc le flambeau, Élodie Forêt.
Dans la mémoire collective, ce défilé du FN en 2015 qui vira au psychodrame familial, Jean-Marie Le Pen, écarté du dispositif par sa fille, monte sur scène sans prévenir. Et appelle Jeanne d'Arc à l'aide. Depuis, le parti lepéniste en quête de normalisation a rompu avec la tradition. Marion Maréchal, qui a sûrement fait ses premiers défilés en poussette, raconte un proche, l'a toujours regretté, comme le regrettent aussi de nombreux électeurs du Front, veut parier Reconquête. Stanislas Rigaud, cadre du parti zémouriste.
Moi, je dis aux électeurs de se demander pourquoi certains partis rendent encore hommage à Jeanne d'Arc et d'autres ne le font plus. En politique, il y a les idées, il y a les programmes et il y a aussi la force du symbole.
Renier Jeanne d'Arc, symbole d'un renoncement plus large, accuse Reconquête qui espère surtout convaincre ses nombreux électeurs zémouristes tentés par un vote RN. Nous n'oublions pas Jeanne d'Arc, rétorque le député Rassemblement National, Laurent Jacobelli.
Nous ne sommes pas un parti passéiste, on s'adapte au temps. Pour autant, on ne renie pas nos valeurs cardinales. Ce n'est pas parce qu'on ne célèbre pas uniquement Jeanne d'Arc le 1er mai que nous l'avons oublié.
Jeanne d'Arc, un symbole que Reconquête, en tout cas, ne veut plus céder, avec désormais tous les ans un banquet à Don Rémy la Pucelle.
Élodie Forêt, puis à quand un débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, le Premier ministre y consent désormais ce qu'il refusait jusqu'ici. À tous ceux qui se demandent quand céder à leurs enfants, voici une réponse. Pas de smartphone avant 13 ans. C'est l'une des recommandations d'un rapport qui sera remis aujourd'hui à Emmanuel Macron, rédigé par des experts. Il préconise le bannissement des écrans pour les moins de 3 ans, le portable sans internet à partir de 11 ans et pas d'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans pour lutter contre l'hyperconnexion des enfants et des ados et sa cascade d'effets délétères. Ils en ont très vite conscience d'ailleurs quand ils se séparent des écrans, comme ces élèves d'une classe de CM2 de Mende en Lozère qui achèvent aujourd'hui une cure détox de 10 jours. Ils font le bilan avec Saïd Makhloufi.
Qui a réussi à relever le défi ?
Moi.
Alors t'as fait quoi à la place des écrans ?
Des gâteaux avec mes parents, des jeux de société.
À la maison, il y a quoi comme écran ?
La télé, l'ordinateur, la tablette et le téléphone.
Ça fait beaucoup ?
Oui.
C'est tous les jours les écrans ?
Oui, 3 heures.
3 heures par jour ?
Ouais, la télé est presque tout le temps allumée.
10 jours sans écran, t'ont apporté quoi ?
Ben je souris plus avec mes parents. À l'école aussi.
Dans cette classe, je remarque quand même que les écrans occupent une grande place dans vos vies.
Entre 3 et 4 heures.
Par jour ?
Oui.
Qui, grâce à cette opération, s'est mis à lire beaucoup plus ?
Moi, j'aimais bien lire, mais je lisais pas très souvent. Et maintenant, dans la journée, je peux peut-être lire 5 chapitres. Et je comprends mieux les livres.
Tu penses que tu vas le garder, ça, pour après ?
Alors, je dirais pas que j'arrêterai complètement les écrans, mais je pense que je baisserai beaucoup mon temps d'écran.
Et votre objectif, Mylène Pernel, vous êtes leur institutrice, c'est qu'ils tirent bénéfice de ces 10 jours sans écran, un bénéfice que vous constatez déjà.
Oui, oui, il y a un bénéfice en classe, ça je le ressens, au niveau calme, ils sont beaucoup plus calmes, plus posés et beaucoup moins fatigués le matin, vraiment.
Bon, vos 10 jours sans écran se terminent ce soir, les enfants ? Bon, surtout ne foncez pas ce soir sur la télécommande.
Ni sur le téléphone, échange signé Saïd Makhloufi, France Bleu Lozère, et puis puisqu'on parle d'alternative aux écrans, voici l'école des Odyssées. France Inter lance un concours de création de podcasts. Les élèves de la classe de Mende peuvent y participer puisqu'ils s'adressent au CM2. Les inscriptions sont ouvertes à vie aux enfants, aux enseignants et aux parents. Rendez-vous sur franceinter.fr. Soupçonné d'avoir poignardé le jeune Mathis, 15 ans, samedi à Châteauroux, un adolescent du même âge a donc été mis en examen pour meurtre et écroué hier soir. Sa mère est aussi poursuivie pour avoir frappé la victime. Tous les deux sont de nationalité afghane, en situation régulière. Les deux ados avaient des amis communs et s'étaient retrouvés ensemble un peu plus tôt dans la journée, Jérôme Collin.
L'auteur des coups de couteau et Mathis se connaissaient. Samedi avant l'agression, ils se croisent, les insultes fusent de chaque côté. Une deuxième altercation éclate un peu plus tard. L'agresseur affirme alors avoir reçu un coup de poing de Mathis, occasionnant une incapacité totale de travail évaluée à 3 jours. Pris de colère, il va dans son immeuble, saisit une lame de couteau et revient pour asséner plusieurs coups à Mathis, dont un qui touche la victime en plein cœur. La mère du meurtrier présumé est également impliquée, selon la procureure de la République de Bourges. Cette femme de 37 ans suit son fils au moment des faits et elle assène des gifles à la victime. Elle est mise en examen pour violence volontaire, mais laissée libre, sous contrôle judiciaire, avec interdiction de sortir du département de l'Indre.
Jérôme Collin, France Bleu Berry. Gérard Depardieu jugé pour agression sexuelle. Ce sera son premier procès en la matière. L'acteur comparaîtra au mois d'octobre après la plainte de deux femmes qui avaient travaillé avec lui sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. C'est la première tendance de l'année, très attendue par le gouvernement et les économistes, surtout en ces temps de déficit public massif. Et c'est une bonne nouvelle, Fabien Cazot, la croissance en France est un poil plus vigoureuse au premier trimestre, en hausse de 0,2%.
Oui, une croissance supérieure à celle enregistrée en fin d'année dernière, 0,2 contre 0,1%. Elle reste modérée, écrit l'INSEE, mais tout de même, il y a quelques signaux qui clignotent en vert. La très observée consommation des ménages, en hausse de 0,4% ce début d'année, contre 0,2 fin 2023. Et surtout, l'investissement des entreprises qui repasse en positif alors qu'il avait subi une assez lourde chute au trimestre précédent. On ressent les effets de ce frémissement d'activité dans de nombreux secteurs, en particulier dans l'agroalimentaire où la production rebondit assez nettement. Des nuages persistent néanmoins dans l'industrie à cause de problèmes d'approvisionnement, note l'INSEE, qui affecte notamment le secteur des transports. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire préfère retenir ce matin qu'au global, la croissance française progresse. Un nouveau signe qui traduit la solidité de notre économie, selon lui, et qui méritera d'être confirmé dans les prochains mois, la croissance restant l'un des principaux paramètres sur lesquels compte le gouvernement pour améliorer l'état de nos finances publiques.
Fabien Cazot, merci. Dans ce contexte, Amazon annonce la création de 2000 emplois en CDI en France d'ici la fin de l'année. Y aurait-il un nettoyage social en Ile-de-France à l'approche des Jeux Olympiques? C'est ce que dénoncent depuis des mois les associations d'aide aux plus démunis au chevet d'une cinquantaine de familles qui squattent des bureaux désaffectés de Montreuil depuis 2 ans. Leur expulsion est imminente. Elles ont été prévenues par les forces de l'ordre. Ce sont des familles d'origine africaine qui comptent une quinzaine d'enfants et de nourrissons et au moins 5 femmes enceintes. Reportage Ajra Mohamed.
Salima berce la petite Tichami dans ses bras. C'est son premier enfant, né il y a 3 mois. Après une grossesse compliquée passée dans ce squat, la jeune Ivoirienne pensait avoir vécu le pire, mais l'idée de dormir à la rue la terrifie encore plus.
C'est compliqué avec l'enfant. Elle est trop petite pour vivre dehors. C'est pas possible du tout. Donc j'ai peur de partir.
La peur aussi pour Jenaba. Sous son pull ample, on devine un ventre rond. Elle est enceinte de 4 mois.
Je me sens du mal parce que c'est pas du tout facile de vivre dehors. Parce que j'ai déjà vécu ça. Surtout nous les femmes, on est très en danger dehors.
Chaque soir, ces femmes passent un appel au 115, en vain, rappelle Paul Allozy, coordinateur à Médecins du Monde.
Aujourd'hui, il faut des critères extrêmement resserrés au 115. Il faut être enceinte de plus de 8 mois, donc être enceinte de 6 mois, ça ne suffit pas. On peut dormir à la rue quand on est enceinte de plus de 6 mois. Il faut un nourrisson, mais il faut un nourrisson de moins de 3 mois, parce que s'il a plus de 3 mois, apparemment la rue, c'est convenable. En fait, aujourd'hui, on marche sur la tête, la saturation est telle qu'on crée des critères complètement impossibles à respecter.
La semaine dernière, 58 femmes enceintes et 93 bébés sont restés à la rue en Seine-Saint-Denis, malgré un appel au 115.
Ajra Mohamed, la 13 fermée aux portes de la capitale, ça va dururer plus longtemps que prévu, jusqu'au 11 mai prochain dans le sens province-Paris. Pas de date pour le sens inverse. Voici maintenant une expérience qui aurait ravi Philippe Noiret, alias Alexandre le Bienheureux. Resté au lit pendant 2 mois pour la science. Étude clinique commandée par l'Agence spatiale européenne. Elle se déroule en ce moment à Toulouse. 12 volontaires allongés, légèrement inclinés avec la tête en dessous des pieds pour simuler la pesanteur. et trouver des façons de réduire ces effets négatifs lors des voyages spatiaux. Alors depuis 10 jours, les volontaires se relèvent les uns après les autres et les tests continuent pour 2 semaines. Rémi Brancato les a rencontrés.
C'est la séance de sport pour Yannick, 35 ans.
Voilà, va chercher la vitesse.
Après 60 jours alité, il s'est relevé il y a 3 jours, quelques problèmes d'équilibre.
Je me suis vraiment mis à la place de ma petite mamie là, et on a tous les symptômes d'être vieux quoi, en fait. Voilà, c'est de l'équilibre, c'est de la force.
Il suit le même protocole qu'un astronaute de retour de mission. Dans la salle voisine, Enzo, lui, pédale allongé sur le dos. C'est un vélo spatial, une 60aine d'électrodes fixées sur ses jambes et son crâne. Constance Badali de l'Institut des neurosciences de Cologne surveille l'exercice sur son ordinateur.
Vous pouvez voir, avec le cycle des pédales, quand le muscle fonctionne ou pas. Ça a l'air d'aller. Enzo a encore des muscles.
C'est rassurant d'un côté.
C'est l'un des 14 protocoles scientifiques de l'étude, son collègue Stéphane Schneider.
On veut voir si, après 60 jours d'alitement, les performances musculaires diminuent et si cette diminution est localisée uniquement dans les muscles ou si elle affecte aussi le cerveau.
Pendant l'alitement, certains volontaires ont fait du sport. Enzo a pédalé dans une centrifugeuse pour simuler la gravité.
La centrifugeuse rajoute un effort. Là, je me rends compte vraiment de tout le bénéfice de cette contre-mesure qui m'a gardé quand même bien en forme.
Pour faciliter la vie des astronautes, la solution pourrait être utilisée dans l'espace et comme toutes les études d'alitement, celle-ci permettra aussi de mieux comprendre ses effets sur les malades et les personnes âgées.
Le reportage Rémi Brancato, enfin debout, vertical, comme au baby-foot, mais là c'est du vrai Bayern Munich Real Madrid. La première affiche de la demi finale allée de Ligue des Champions est alléchante ce soir. Les Allemands et les Espagnols comptent 20 titres européens, 14 pour le Real, 6 pour le Bayern. Demain, le PSG est attendu sur la pelouse de Dortmund.
Merci Florence Paracuelos. L'humoriste Hakim Jemili présente son seul en scène intitulé Fatigué à Paris. Il est en tournée dans toute la France. Il sera l'invité de Léa Salamé à 9h20. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Marie-Pierre, la pluie est au rendez-vous dès ce matin.
Et oui, excepté sur la façade est où le ciel est laiteux à cause des remontées de sable du Sahara et puis sur les régions normandes au Pays Basque, à l'ouest des Pyrénées, sur les autres régions. Donc on a en fait 2 phénomènes. Une perturbation qui arrive d'Irlande et qui arrose ce matin le Finistère sous le vent et on retrouve la perturbation d'hier qui est en train de se redresser et qui arrose toutes les régions, comprises entre l'Occitanie en remontant vers les Cévennes à la région parisienne aux Hauts-de-France. A noter qu'il neige sur les Alpes frontalières à 2000 mètres d'altitude, comme d'ailleurs sur l'est des Pyrénées. Sous un mercure contrasté, c'est descendu à 1 petit degré à Moutte dans le Doubs, 2 à Flers dans l'Orne, alors qu'il fait 15 à Calvi et 20 à Menton. Vous avez 12 à Paris, à l'Île-de-Groix, 13 à Strasbourg, comme à Montpellier et Lorient.
Et peu d'évolution cet après-midi.
Oui, si ce n'est, Nicolas, l'instabilité qui va se développer, donner des orages qui vont éclater sur toute la zone pluvieuse d'hier, donc des Hauts-de-France au centre, à la Bourgogne, à la vallée du Rhône. Et le ciel restera laiteux sur les régions de l'Est avec toujours ces remontées de poussière du Sahara jusqu'à demain. La perturbation arrivée par la Bretagne va arroser toute la Bretagne sans nuages et ça ennuagera le Cotentin au Pays de la Loire et le soleil restera dominant comme ce matin de l'ouest des Pyrénées en remontant vers la Normandie. Et on sera souvent proche des 20 degrés excepté vers la Bretagne où vous n'aurez pas plus de 13 à Quimper. Il fera 14 à Arpajon-sur-Cère, 15 à Toulouse, pas plus de 16 à Palavas-les-Flots, mais comptez 18 sur le Cotentin. Comme à Nîmes, vous aurez 22 à Bordeaux, à Besançon, à Antibes ou Bayonne. Et ça va monter jusqu'à 26, Nicolas, Strasbourg, où hier il a fait même 29 degrés en se rappelant qu'avril entrant comme un agneau, s'en retourne comme un taureau.
Celui-là, je l'adore. Merci Marie-Pierre. Il est 8h19.